Bonjour à tous. Je m'appelle Thibaut Rival, je vais vous présenter mon mémoire qui s'intitule « Méthodologie d'approche des pratiques non conventionnelles, application pour l'analyse critique de la microkinésithérapie ». À l'heure actuelle, les kinésithérapeutes sont sollicités par de nombreuses formations, qu'elles soient décrites comme conventionnelles ou non. Ces formations s'intègrent ou gravitent au sein de la kinésithérapie. Et alors on peut se poser comme question, comment choisir une ou l'autre de ces formations? Sur quels critères peut-on se baser? À tous les moyens de se faire une opinion objective? Et finalement, comment distinguer une thérapie d'une pseudothérapie? À l'heure actuelle, la kinésithérapie s'intègre comme toute science médicale ou paramédicale sur la pratique fondée sur les données probantes ou evidence-based practice. Le BP comprend les meilleures données de la recherche, l'expertise du clinicien et le patient dans ses composantes biopsychosociales. La réunion de ces trois facteurs va permettre au kinésithérapeute de choisir les bonnes techniques au bon moment et avec le bon patient. Enfin, on peut rajouter que le code de déontologie stipule qu'il est interdit pour un kinésithérapeute de divulguer des pratiques non suffisamment prouvées. Qu'est-ce que la microkinésithérapie? C'est une pratique de soins décrite comme non conventionnelle par le journal officiel du Sénat. Elle est non enseignée en formation initiale et s'adresse uniquement aux kinésithérapeutes, aux médecins et aux vétérinaires. C'est une formation privée créée par Daniel Grosjean et Patrice Benigni au début des années 80. Pour résumer, on pourrait la définir comme une technique à visée thérapeutique qui permet par une micropalpation de détecter des traces d'agression laissées dans l'organisme. Ensuite, le microkinésithérapeute va stimuler des zones spécifiques du corps manuellement afin de permettre de développer les mécanismes d'autocorrection du corps. C'est donc cette pratique qui sera analysée de manière critique dans notre travail. Pour cela, on va utiliser une approche éthique, du gravis éthico, ce qui veut dire qui examine, qui recherche. Cette méthode repose sur le doute, la vérification des informations et sur l'esprit critique. Donc face à une formation qui s'offre à nous ou une méthode, on peut se demander quels sont les critères qui vont nous faire adhérer à celle-ci. Donc pour nous, il faut principalement une efficacité thérapeutique propre, avec un bon rapport bénéfice-risque. Il est aussi intéressant de se renseigner si les postulats fondateurs ou hypothèses fondatrices sont en accord avec les connaissances actuelles de la science. Et enfin, s'il existe des indices de pseudo-scientificité dans le corpus de documents de cette pratique. On va donc essayer de répondre à la problématique suivante. La microkinésithérapie repose-t-elle sur des fondements scientifiquement valides et a-t-elle démontré une efficacité propre à travers les études cliniques? Voici un organigramme qui résume notre schéma, notre méthode générale d'investigation. Tout d'abord, on se renseigne sur la représentativité et l'organisation de la pratique. Puis nous abordons la naissance de la méthode. Puis nous abordons la théorie. Dans ces trois grands thèmes, nous avons essayé de détecter des indices, des critères de scientificité qui nous conféraient des indices quant à la scientificité de la pratique. Par exemple, on va se demander si la pratique s'inspire de pseudomédecine, quel est le processus qui a permis au créateur de développer la pratique, est-ce que c'est une intuition, une illumination? On peut se demander aussi s'il existe des entités immatérielles au sein de la théorie, comme l'énergie, s'il y a des discours mystiques, irrationnels, des discours ésotériques, s'il y a par exemple des appels au témoignage en guise de preuve, et si la pratique comprend généralement des raisonnements fallacieux de type par exemple paralogisme. On va ensuite extraire de la théorie les hypothèses fondatrices qui sont à la base de la pratique. Ces hypothèses, on va les confronter aux critères de réfutabilité écrits par Karl Popper. Pour résumer, on va se demander s'il est possible de concevoir, d'imaginer une observation ou une expérience qui permettrait de vérifier ces informations. Sinon, ces hypothèses sont donc non scientifiques par essence, elles sont invérifiables. Donc là, il conviendrait de passer directement à l'analyse des essais cliniques, voir s'il y a quand même une efficacité propre. Dans le cas de la microkinésithérapie, les hypothèses fondatrices originelles reposent sur ces critères. On va donc se demander si elles ont été étudiées, par qui et comment, et regarder si elles sont en marge des connaissances scientifiques admises, et si elles ont été prouvées. Enfin, on va aller trouver et analyser les essais cliniques, leur appliquer les 10 commandements d'essais thérapeutiques, la grille de lecture de la chaise d'un essai thérapeutique et la grille consort, Consolidating Standard of Reporting Trials, qui seront des outils permettant de vérifier la qualité méthodologique de la publication. Concernant les résultats, nous avons trouvé au sein du corpus de documents des indices qui confèrent une pseudo-scientificité relative à la pratique, comme des discours mystiques, des articulations entre science et religion, un jargon pseudo-scientifique dans le corpus de documents, la présence d'identité immatérielle dans la théorie, On a des filiations vérifiées avec des thérapies controversées telles que l'homéopathie et l'ostéopathie crânienne. On retrouve des arguments d'exotisme et d'historicité. Une présence de résistance aux faits et d'hypothèses ad hoc. C'est des hypothèses mises en place lorsqu'on trouve des incohérences. Ces hypothèses sont invérifiables. Et enfin, les techniques sont publiées dans des revues endogènes à la microkinésithérapie, donc sans groupe de lecture indépendant. Concernant les hypothèses fondatrices ou postulats de base, il y en a 5. Bon, le premier stipule que certains tissus sont animés de rythmes propres, suivant leur origine embryologique. D'après notre recherche bibliographique, il n'y a pas d'hypothèse tangible qui permette de trouver une source à ces phénomènes. Aucun instrument n'a pu objectiver ces rythmes dans les tissus. Il est possible que le rythme mésoblastique soit confondu avec l'onde de Traubéric-Meyer, qui a une fréquence très proche de celle-ci. L'hypothèse numéro 2 stipule que ces rythmes sont donc palpables par la main humaine. Il n'y a aucune étude bien menée sur la reproductibilité de ces palpations. Et une expérience faite par le professeur Simon conclut même à l'absence de support mécanique à ces tissus. Donc un autre support, on ne sait pas trop ce que c'est. La troisième hypothèse stipule que ces mouvements rythmiques ils ont un rôle fonctionnel et que leur disparition se traduit avec des troubles. Là non plus, on n'a aucune preuve sur ce sujet, et une étude faite par Daniel Grosjean, le fondateur de la microkinésithérapie, montre l'absence de pouvoir diagnostique de la palpation de ces mouvements rythmiques dans le cancer du poumon. Enfin, la disparition du régime rythmique d'un tissu donné aurait des conséquences dans des organes éloignés à celui-ci, et qu'il existerait une zone de cartographie, une cartographie des zones de correspondance entre organes et tissus. Il y a un seul travail en relation avec ce sujet, qui montre qu'un microkinésithérapeute est incapable de percevoir sur un sujet un blocage musculaire effectué sur ce même sujet à distance. Enfin, dernière hypothèse, dit qu'un tissu qui a perdu ses mouvements rythmiques peut le retrouver de suite d'une intervention manuelle. Là, il n'y a aucune expérience dessus, et c'est une hypothèse difficile à vérifier, étant donné qu'on n'a pas la preuve de ce mouvement rythmique. Concernant les études cliniques, nous avons inclus la totalité des essais cliniques existants en 2011, soit 43 études, et nous avons essayé de définir la livre de preuve selon l'HAS, grâce aux grilles de lecture que nous avons définies tout à l'heure. Sur 43 essais cliniques, 38 sont sans groupe contrôle, elles mènent donc au maximum à un faible niveau de preuve scientifique. Les 5 études avec groupe contrôle comportent 4 études avec des biais importants qui mènent à un faible niveau de preuve scientifique, et une seule étude pourrait avoir une présomption de preuve dans le domaine de l'écologie institutionnelle. Cette étude date de 1983, c'est la première étude à avoir été faite en microkinésithérapie par Daniel Grosjean. Certains des résultats, c'est qu'on a trouvé la présence d'indices de pseudo-sophisticité dans le corpus de documents. Les hypothèses de base, elles n'ont pas été prouvées, elles sont en marge des connaissances scientifiques actuelles. De plus, les études cliniques sont fortement biaisées et n'apportent pas une preuve d'efficacité de la microkinésithérapie. Limite de notre analyse, on ne sait pas si notre démarche est reproductible entre observateurs. Elle n'est pas définitive, c'est située à l'heure actuelle, et la science peut encore trouver des fondements physiologiques aux hypothèses fondatrices. Et l'efficacité clinique peut encore être prouvée dans certains domaines à l'avenir. Enfin, nous sommes penchés que sur l'efficacité propre ou l'étude clinique, et les effets contextuels gravitant autour de la pratique ont pu en effet permettre à certains patients d'aller réellement mieux. Pour conclure, nous pensons que notre démarche peut être adaptée à tous les cas de formation de méthodes rencontrées en kinésithérapie, qu'elles soient décrites comme non conventionnelles ou conventionnelles. Et concernant la microkinésithérapie, il serait intéressant de réaliser une étude indépendante sur son efficacité propre sur l'écolopathie fonctionnelle. Merci de votre attention.